Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre très importante série concernant le meurtre de Jésus-Christ. Nous arrivons à l'étude numéro 6 et je vous dirai qu'il y a beaucoup de citations bibliques et je vous demande de les noter sur un papier afin que vous puissiez vérifier dans vos Bibles, que vous soyez de n'importe quelle langue, comme quoi que vraiment vous entendez uniquement la parole de Dieu et non pas autre chose. Donc, tout d'abord, dans le psaume chapitre 56, verset 6, il est dit sans cesse, il porte atteinte à mes droits, ils n'ont à mon égard que de mauvaises pensées. Le titre de notre étude sera donc le tribunal irrégulier du souverain sacrificateur, car c'est vraiment un tribunal irrégulier. Jésus s'est fait conduire directement de Gethsémané à la maison d'Anne, l'ancien souverain sacrificateur, où réside encore le véritable pouvoir attaché au sacerdoce du souverain sacrificateur, selon Saint Jean chapitre 18, verset 13. Anne l'a fait lier, donc Jésus, et envoyé à la maison de Caïphe, son genre. Son genre qui est souverain sacrificateur cette année-là, selon le verset 24. Ayant convoqué à la hâte le Sanhédrin, Caïphe traduit donc Jésus en justice séance tenante, on peut bien le dire, et même en pleine nuit. On porte alors contre Jésus des accusations inventées de toutes pièces, sans hésiter à soudoyer des témoins, si bien que le procès n'est qu'une véritable farce juridique. Selon toutes les normes bibliques censées régir l'exercice de la justice dans Israël d'alors, eh bien le procès s'avère absolument illégal et son verdict absolument injuste. À l'époque, Israël établit ses normes juridiques fondamentales conformément à la divine loi mosaïque. Le système juridique ou judiciaire que Dieu a instauré en Israël vise donc à assurer la plus grande équité possible et à favoriser la miséricorde. D'ailleurs, lorsque Dieu a institué la loi de Moïse, les normes y étant propres ont fait beaucoup progresser la justice civile et pénale. Le système mosaïque était de loin supérieur à celui des Cananéens. Il surpassait également en efficacité et en équité le système juridique ou judiciaire des Égyptiens. En effet, voyez-vous, à l'époque donc de Jésus, le Sanhédrin est maintenant corrompu et il est politisé à l'extrême. On peut s'y faire nommer en échange de faveurs politiques ou parfois même à prix d'argent. Favoritisme et sectarisme politique y abondent donc, si bien que les nominations et les destinations, ou plutôt les destitutions, eh oui, ne sont souvent qu'une question d'opportunisme politique au sein du Sanhédrin. Car c'est Rome qui exerce le contrôle ultime sur le sacerdoce du souverain sacrificateur, qu'elle a donc le pouvoir de nommer et de destituer. Notons que le souverain sacrificateur et les sacrificateurs en fonction dans le temple sont tous des sadducéens qui nient carrément ouvertement les éléments surnaturels de l'Ancien Testament. En raison des constantes tensions politiques qui font fermenter la discorde entre les diverses factions de Sanhédrin, le peuple d'Israël, Rome et Hérode, le Sanhédrin rend donc souvent des décisions qui servent uniquement les intérêts politiques. En fait, mis à part l'animosité religieuse qu'il voue aux enseignements de Jésus, c'est par pur opportunisme politique qu'il a comploté l'arrestation et la crucifixion de Jésus. Saint Jean, chapitre 11, versets 47 à 53. En dépit de la corruption du Sanhédrin, le système judiciaire d'alors n'en demeure pas moins gouverné par des règles de preuve et des principes d'impartialité qui ont été établis sous Moïse. Il faut donc encore produire deux témoins dignes de foi pour établir la culpabilité de l'accusé qui est censé avoir droit à un procès public. Voici le principe que la loi de Moïse a instauré afin de dissuader quiconque de porter un faux témoignage contre quelqu'un. Notez Deutéronome dans l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 19, versets 16 à 19. Lorsque, est-il dit, lorsque un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les deux hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et devant les juges en fonction. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors, vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Deutéronome chapitre 19, versets 16 à 19. Ainsi, si quelqu'un apportait un faux témoignage contre une personne accusée d'un crime capital, le faux témoin risquait lui-même d'encourir la peine de mort. Tous ces principes ont été établis pour veiller à ce que les procès soient équitables et surtout miséricordieux. Des experts juridiques qui ont étudié le système judiciaire du Sanhédrin ont relevé de nombreux autres principes qui régissent, on peut dire, l'audience de cause capitale. Donc, pour garantir l'équité, le conseil ne pouvait juger que les causes portées devant lui par une tierce personne. Dans le cas d'accusation portée par un membre du conseil, eh bien, tout le conseil était alors déclaré inapte à juger la cause en question. Tous les témoignages devaient donc corroborer la date, l'heure et le lieu de l'événement faisant l'objet de leur témoignage. Or, lors du procès de Jésus-Christ, on viole maintenant presque tous ces principes, car en effet, selon virtuellement tous les principes de jurisprudence alors connus, son procès s'avère injuste et totalement illégal. Caïphe et le Sanhédrin changent donc leur propre conseil en tribunal irrégulier, tout cela dans le but bien précis de tuer Jésus. Le procès auquel ils soumettent ici, où ils le soumettent, en fait, c'est tout un acte d'inhumanité, on peut dire d'inhumanité délibérée, c'est même le plus grand déni de justice, on peut bien le dire, de toute l'histoire du monde. Saint Matthieu écrit ainsi, il dit dans chapitre 26, versets 57 et 58, ceux qui avaient saisi Jésus l'ont amené chez le souverain sacrificateur, Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. L'apôtre Pierre le suivait de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Saint Matthieu, chapitre 26, versets 57 et 58. Remarque que notre apôtre Jean étoffe lui-même de quelques détails, car il semblerait que Jean ait aussi accompagné Jésus jusqu'à la maison du souverain sacrificateur, selon Saint Jean chapitre 18, verset 15. Jean nous apprend donc également que avant de conduire Jésus à la maison de Caïphe, ils l'ont amené d'abord chez Anne, car il est le beau-père de Caïphe qui est souverain sacrificateur cette année-là, selon le verset 13. Anne et sa famille se sont donc arrangés pour transformer la fonction sacerdotale du souverain sacrificateur en une entreprise incroyablement lucrative qui leur a permis d'amasser carrément une fortune colossale. Ils y sont donc parvenus principalement en percevant des redevances sur licence et des commissions auprès des changeurs et des vendeurs d'animaux sacrifiés dans les parvis du temple. Toute l'entreprise est absolument malhonnête. Il faut dire que les changeurs et les vendeurs d'animaux sont alors dénommés, ou on ne peut plus dire même de renommée. Ils ont une mauvaise renommée, on peut dire de malhonnêteté, et en plus d'avarice. Étant donné donc que Anne exerce le monopole sur toute l'entreprise, eh bien oui, les marchands qui sont à sa solde peuvent donc imposer des tarifs exorbitants, surtout en période de festivité où la ville est bondée de pèlerins. Bien entendu, Anne n'hésite pas à se remplir généreusement les poches. Lui et ses fils se sont ainsi grassement enrichis aux dépens des gens qui viennent adorer Dieu. Et voilà d'ailleurs qui explique pourquoi Jésus s'est insurgé contre tout ce trafic en son temps, qui l'a poussé à chasser du temple les changeurs et les vendeurs d'animaux à deux reprises, rappelez-vous. Et notez Saint Matthieu, chapitre 21, versets 12 et 13, Saint Marc, chapitre 11, versets 15 à 17, et Saint Jean, chapitre 2, versets 14 à 16. Pourquoi y a-t-il donc des changeurs dans le temple? Mais parce que les pièces d'argent romaines, qui servent alors dans, on peut dire, dans la majorité des commerces, ces pièces sont frappées à l'effigie de César, ce que on juge étant idolâtre, selon Matthieu chapitre 22, versets 20 et 21. On ne doit donc pas déposer dans le trésor sacré des pièces romaines en guise d'offrande. Les adorateurs qui vont au temple sont donc tenus d'employer des pièces juives pour leur dîme, pour leur aumône et leurs impôts. Prétendument, tout cela, pour faciliter les choses, les changeurs à la solde du souverain sacrificateur sont donc autorisés à exercer leur métier sur les lieux mêmes du temple, en échangeant là les devises étrangères contre des pièces juives. Mais le taux de change qu'ils fixent s'avère exagérément désavantageux pour les adorateurs. Bref, le souverain sacrificateur sanctionne ainsi une sorte de vol qualifié. Anne exerce donc son pouvoir par l'intermédiaire de ses fils qui prélèvent régulièrement la part des bénéfices du souverain sacrificateur auprès de ses hommes d'affaires véreux. En fait, il fonctionne un peu comme un patron du crime organisé des temps modernes. Rien d'étonnant à ce que Jésus et purifier le temple à deux reprises, quand on pense que Anne l'a littéralement transformé en maison de trafic et en caverne de voleurs, selon Saint Jean chapitre 2 verset 16 et Saint Marc chapitre 11 verset 17. Voilà donc d'ailleurs pourquoi Anne est si déterminée à éliminer Jésus-Christ. Il est vrai que Jésus a nui à ses intérêts mercantiles, et cela à plusieurs reprises, on peut bien le dire, sans compter que Jésus est tout ce qu'un véritable souverain sacrificateur devrait être. Jésus est saint, pieux, chaste, honorable et vertueux. Les hommes corrompus, qui abusent de leur pouvoir comme Anne, ne supportent tout simplement pas la véritable justice. Et Jésus est pour eux, pour lui, un reproche constant. Autant de raisons donc pour lesquelles Anne doit le faire périr. Pourquoi pas l'assassiner carrément? Le fait que ceux qui ont arrêté Jésus le conduisent d'abord chez Anne prouve bien que celui-ci est le réel instigateur du complot meurtrier contre Jésus. Il a bien fallu qu'il autorise la démarche, sans quoi le complot n'aurait jamais pu se concrétiser. De plus, le fait que les conspirateurs l'ont mené chez Anne avant de le faire paraître devant Caïphe révèle vraiment la véritable nature du sacerdoce que ce dernier exerce en tant que souverain sacrificateur. Il n'est, en somme, qu'une marionnette dont son beau-père tire les ficelles. L'audience qui se tient à la maison d'Anne n'a évidemment qu'une seule visée, c'est de inventer de toutes pièces une accusation à porter contre Jésus. Anne a pour tactique d'écouter Jésus faire l'exposé de son enseignement pour ensuite déterminer quel type d'accusation concocter. En fait, plusieurs possibilités s'offrent à lui. Il pourrait accuser Jésus de blasphème, de crime, encourant la peine de mort selon la loi juive. Étant donné qu'au cours de son ministère public, Jésus a prononcé plusieurs fois des paroles que les chefs religieux taxent de blasphématoires, eh bien cette accusation lui semble être la plus plausible. Et tandis qu'on mène Jésus devant Anne, Caïphe a le temps de convoquer le Sanhédrin chez lui pour y tenir le procès improvisé, selon Matthieu chapitre 26, verset 57. Voyez-vous la rapidité avec laquelle il s'exécute, cela démontre bien, d'ailleurs, combien le conseil tout entier est empressé, vraiment empressé de se débarrasser de Jésus. Jean rapporte que Anne interroge Jésus sur ses disciples ainsi que sur sa doctrine, selon Jean chapitre 18 verset 19. Dans les faits, Jésus est ici traduit en justice. Il comparaît devant un tribunal pour répondre de certaines accusations. Même si on ne l'a pas encore accusé, mis officiellement en accusation pour un délit spécifique, eh bien rien ne se passe dans l'ordre des choses. Bien au contraire, aucune norme d'équité jurisprudentielle n'est respecté. Mais la réponse de Jésus expose subtilement l'illégalité de l'interrogatoire d'Anne. Jésus dit « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s'assemblent et je n'ai rien dit en secret. « Pourquoi m'interroges-tu ? » Interroge sur ce que je leur ai dit, tous ceux qui m'ont entendu. Voici, c'est ceux-là qui savent ce que j'ai dit. » Saint Jean chapitre 18, versets 20 et 21. Notons bien qu'il ne fait pas preuve ici d'impertinence. C'est que la loi ne le contraint nullement à témoigner contre lui-même, surtout pas avant d'être officiellement inculpé. Anne est donc censée lui indiquer de quoi il est accusé avant de l'interroger dans le cadre d'un procès comme celui-là. Étant donné qu'aucune accusation spécifique n'a été portée contre Jésus, celui-ci n'est aucunement dans l'obligation de fournir à Anne des renseignements dont ce dernier pourrait se servir ultérieurement pour l'excriminer, c'est-à-dire pour le juger, l'incriminer, excusez-moi. Tout cela, Anne le sait parfaitement, bien entendu. Mais n'empêche que, à ces mots-là, un des huissiers qui se trouve là, justement, donnera un soufflet, une gifle à Jésus, en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Verset 22. Le geste du huissier a d'ailleurs probablement pour objet de dissimuler l'embarras du souverain sacrificateur. Il peut s'agir également d'une tentative délibérée pour piquer Jésus au vif et ainsi l'amener à sortir de ses gonds afin d'utiliser cela contre lui. Mais voilà, Jésus lui dit calmement, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ?» Verset 23. Voyez-vous, si Jésus avait proféré des blasphèmes ou s'il aurait tenté d'instiguer une révolution, ça, ce sont ses accusateurs qui auraient été tenus d'exposer en détail et de prouver ainsi son méfait. Or, comme ils ne le reconnaissent coupable d'aucun crime, ils n'ont pas le droit de le détenir et encore moins de le frapper. Voyez-vous, de toute évidence, la réponse de Jésus embarrasse Anne. Jésus vient juste d'exposer sa ruse, sans même lui fournir le moindre renseignement susceptible de l'aider à forger des accusations. Exaspéré, et encore dans l'impossibilité de trouver quoi que ce soit dont il pourrait accuser Jésus, Anne finit par le faire lier et l'envoyer chez Caïphe, où les membres du Sanhédrin se sont assemblés en vue de son procès. Les maisons de Anne et de Caïphe ont apparemment une cour commune. Dans leur culture, il est courant pour les fils et les gendres de se construire une maison adjacente ou annexée ainsi à la maison parentale. Entre les maisons se trouve ainsi une cour. Il semble d'ailleurs que ce soit dans une telle cour que l'apôtre Pierre et Jean attendent en se réchauffant les mains à un brasier afin de savoir à quoi aboutira l'audience. Saint Jean chapitre 18, versets 15 à 18. Notons que Jean est connu du souverain sacrificateur, verset 16. Donc cela fait qu'il reflète probablement le statut social de sa famille et qui explique qu'il parvienne à faire entrer Pierre aussi facilement dans la cour. Ainsi qu'en Matthieu, quand il dit que Pierre se trouve dans la cour de Caïphe, donc c'est Matthieu qui dit cela, avec les serviteurs, attendant de connaître l'issue du procès, selon Saint Matthieu, chapitre 26, verset 58, excusez-moi, eh bien, il parle probablement du même lieu que Jean et où les serviteurs ont allumé un brasier. Cela signifie donc également que Jésus, que Anne envoie lier, on l'a bien vu, chez Caïphe, n'a qu'une très courte distance à franchir, lui faisant probablement traverser la cour même où Pierre et Jean attendent. Le fait qu'aucune accusation formelle n'a encore été portée contre Jésus embarrasse probablement et frustre assurément les membres du conseil, mais ne les dissuadera pas en définitive de mettre leur plan à exécution. Ils ont avec eux une véritable clique de faux témoins qui sont tous disposés à témoigner contre Jésus. Saint Matthieu écrit ensuite, il écrit dans Saint Matthieu chapitre 26, versets 59 et 60, que les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelque faux témoignage contre Jésus suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvent point, quoique plusieurs faux témoins se sont pourtant présentés. Il ne revient pas aux membres du conseil de solliciter le témoignage de quiconque. Ils sont censés agir en tant que juges impartiaux et non pas en procureurs de la poursuite. Donc, en sollicitant un témoignage défavorable contre Jésus et mensonger, ils perdent toute perception d'impartialité. Mais voilà, ils croient probablement que si leur complot contre Jésus devait échouer cette fois-ci, ils ne réussiraient plus jamais. Or, en désespoir de cause, ils forcent ainsi les choses jusqu'à ce qu'ils trouvent un grief raisonnable et plausible contre Jésus, même s'ils devaient pour ce faire détruire tout vestige de légitimité susceptible d'avoir survécu aux procédures illégales qui ont été employées. La phrase « mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se soient présentés », cela indique que même si beaucoup de gens se sont dit prêts à se parjurer carrément aux dépens de Jésus, personne n'était assez crédible pour porter une accusation contre lui. Selon saint Marc, les faux témoins se contredisaient entre eux, mais les témoignages ne s'accordaient absolument pas. Notez saint Marc chapitre 14, verset 56. C'est donc dire que les conspirateurs ne pouvaient pas même trouver des menteurs qui seraient assez astucieux pour échafauder une histoire mensongère assez susceptible de corroborer les mensonges des autres. Mais deux faux témoins finissent tout de même par s'avancer et à déclarer « Celui-ci a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le rétablir en 3 jours. » Saint Matthieu, chapitre 26, verset 61. Marc met d'ailleurs encore plus en lumière le grief de ces faux témoins. Il dit, dans Saint Marc chapitre 14 verset 58, nous l'avons entendu dire, disent ces crapules, je détruirai ce temple fait de main d'homme, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. Mais bien qu'elle ne soit pas encore tout à fait au point, voyez-vous, leur histoire se ressemble suffisamment, bien entendu, pour donner à leur témoignage, on peut dire, un vernis de crédibilité. Un des témoins déclare apparemment avoir entendu Jésus dire, voyez-vous, si le temple était détruit, il serait capable de le rétablir en 3 jours. Saint Matthieu, chapitre 26, verset 61. Quant aux autres, ils déclarent l'avoir entendu dire, en fait, qu'il détruirait le temple et il en rebâtirait un nouveau qui ne serait pas fait de main d'homme. Saint Marc chapitre 14, verset 58. Donc, les deux évoquent manifestement absolument la même affirmation que Jésus a faite antérieurement dans son ministère, tout cela après avoir chassé les vendeurs du temple une première fois. Et voici comment Jean explique ce qui s'est réellement passé. Notez Saint Jean chapitre 2, versets 18 à 21. Là il est dit, les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Alors les Juifs dirent, « Mais il a fallu 46 années pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu pourrais le relever. » Mais ce qu'ils ne savent pas, Jésus parlait du temple de son corps. Saint Jean chapitre 2, verset 18 à 21. Le fait, l'incide, donc on peut dire, tout cela s'est produit à la Pentecôte de la première année du ministère public de Jésus, soit donc 3 années, jour pour jour, avant même le procès qui se tient maintenant sous le toit de Caïphe. Voyez-vous, la plupart des gens qui écoutaient Jésus à cette occasion-là ont présumé à tort qu'il parlait de la destruction physique du temple, car il s'est fait délibérément ambigu. Mais ce n'est qu'après sa résurrection que les disciples ont compris pleinement qu'il parlait Jésus du temple de son corps, verset 21. Bien que la majeure partie de la foule ont cru qu'il parlait du temple de Jésus, Jérusalem, verset 20. Voyez-vous, de toute évidence, les deux témoins, hôtes de Caïphe, ils étaient présents ce jour-là, donc 3 années auparavant, et ils n'avaient pas oublié l'incident, bien que ni l'un ni l'autre ne soit vraiment capable de rapporter les paroles exactes de Jésus. Or, la divergence entre leurs versions témoigne de toute l'incompréhension que ont suscité les paroles de Jésus chez les gens qui les ont entendues initialement. Mais voyez-vous, le témoignage de ces deux bizarre de témoin servira néanmoins, malheureusement, la cause de Caïphe, qui est bien capable de tout déformer pour laisser entendre que Jésus prône le renversement intégral du judaïsme en remplaçant le temple par un autre. De plus, le Sanhédrin peut maintenant l'accuser de blasphème, qualifié pour avoir déclaré pouvoir rebâtir le temple de manière miraculeuse, qui ne sera pas fait de main d'homme. Saint Marc chapitre 14, verset 58. Après tout, il y a 46 années que on a travaillé à la construction du temple d'Hérode, Saint Jean chapitre 2 verset 20, qui compte déjà, même qu'il est inachevé, parmi les édifices les plus spectaculaires de l'Antiquité. Selon quiconque croit que Jésus parlait de détruire et de rebâtir le temple d'Hérode, il passe probablement pour très arrogant à l'extrême. Et c'est donc sur cette affirmation qui est mal interprétée que Caïphe va miser. Il lui dit à Jésus, « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? Est-ce que tu entends ?» Saint Matthieu chapitre 26, verset 62. Voyez-vous, puisqu'il y a des divergences évidentes entre les versions des deux témoins, il faudrait automatiquement rejeter leur témoignage et de les poursuites et des poursuites qui devraient être intentées contre Jésus. Mais, les membres du Sanhédrin n'en ont manifestement pas l'intention du tout. Ils ont déjà convenu en secret d'éliminer la menace que selon eux Jésus représente pour tout leur pouvoir. Et pour parvenir à leur fin, ils doivent donc amener des preuves tangibles contre lui. Et maintenant, ils semblent en posséder un peu, ou du moins, ils semblent être en mesure de transformer le témoignage des deux témoins en une version qui serait apte à prouver que Jésus aurait proféré un véritable blasphème. Or, jouant sa carte maîtresse, le souverain sacrificateur se lève et lui dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ? N'entends-tu pas ?» Saint Matthieu, chapitre 26, verset 62. Voyez-vous, Jésus ne répond strictement rien. On se l'imaginera facilement en train de fixer Caïphe dans les yeux, peut-être même sans sourciller. Rien ne l'oblige, Jésus, à témoigner contre lui-même. Et comme il vient tout juste de le faire avec Anne, il l'indique à Caïphe, de manière on ne peut plus frappante, en refusant tout simplement de témoigner contre lui-même. Rappelons-nous que des siècles auparavant, un prophète a justement prédit tout ce silence. Notez Ésaïe 53, verset 7, où il est dit « Il a été maltraité ». Il a été opprimé et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant tous ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe 53, verset 7. Alors exaspéré, Caïphe finit par défier Jésus par le biais d'un serment. Il lui dit, « Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Saint Matthieu, chapitre 26, verset 63. De toute évidence, Caïphe connaît la doctrine de Jésus et il sait que Jésus a déjà publiquement appelé Dieu son propre Père, se faisant ainsi lui-même égal à Dieu. Saint Jean chapitre 5, verset 18. Avant cette fois-là, Jésus s'était déjà présenté comme étant le Messie, comme étant le Christ et le Fils de Dieu. Notez Saint Jean chapitre 4, verset 25 et 26, ainsi que le chapitre 9, verset 35 à 37, toujours de Saint Jean. Et notez encore Saint Matthieu chapitre 16, verset 20. Voilà qui suffit donc largement pour se faire accuser de blasphème, un crime capital, selon la loi de Moïse. Car celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Lévitique chapitre 24, verset 16. Cependant, le témoignage de Caïphe manque encore de crédibilité pour prouver que Jésus a bel et bien prononcé de telles paroles, car il ne repose que sur des oui-dire. Le témoignage des deux témoins n'est donc pas parfait non plus. Mais Caïphe devra s'en contenter, à moins qu'il ne trouve d'autres preuves. Toutefois, avant d'aller plus loin, le chef religieux fait d'abord prêter serment à Jésus et il exige de lui qu'il dise s'il est, oui ou non, le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui dit alors exactement ce qu'il voulait entendre. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Saint Matthieu chapitre 26, verset 64. Saint Marc, pour sa part, fait remarquer que Jésus se dit également être le « Je suis », se présentant donc exactement comme l'a fait Dieu, le Père, Yahvé l'Éternel, avec Moïse, dans Exode chapitre 3, versets 13 et 14. S'inculpant ainsi, bien entendu, lui-même, de se faire Dieu, comme l'on accuse le Sanhédrin, notons que en promettant de revenir sur les nuées du ciel, évidemment, il s'identifie clairement comme étant le Messie, rappel indubitablement de la prophétie messianique qui est bien connue dans le livre de Daniel au chapitre 7, versets 13 et 14, où il est dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on l'a vu approcher de lui. On lui donna la domination, on lui donna la gloire et le règne, et cela pour tous les peuples, pour toutes les nations, et les hommes de toute langue le serviront. Sa domination est donc une domination éternelle qui ne passera jamais, et son règne ne sera jamais détruit. » Daniel chapitre 7, versets 13 et 14. Comme je vous l'ai déjà dit, je prends parfois des versions allemandes parce que je suis de langue allemande. Mais rassurez-vous, c'est pareil chez vous. Donc, pour Caïphe, eh bien oui, pour Caïphe, il n'en faut pas plus. On peut dire pas beaucoup plus, car là, il y en a assez. Il est écrit alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements en disant « Il, Jésus, a blasphémé. » Alors qu'avons-nous encore besoin de témoins? Voici, vous venez d'entendre son terrible blasphème. Que vous en semble à vous qui écoutez Saint Matthieu, chapitre 26, versets 56 et 66, par le déchirement de ses vêtements, on peut dire d'une façon faucheton absolu, Caïphe est censé de signifier qu'il est choqué et scandalisé d'avoir soi-disant entendu un blasphème aussi flagrant. Mais le fait de déchirer ses vêtements constitue une façon d'exprimer une fausse tristesse, mais que les gens ne pourront pas voir, et un choc extrême qui remonte à des temps bibliques immémoriaux. Selon la Genèse chapitre 37, verset 34, selon le livre des Nombres, chapitre 14, verset 6, et 2 Samuel, chapitre 1, verset 11. Notons toutefois que le souverain sacrificateur n'est pas autorisé à le faire, selon Lévitique chapitre 21, verset 10. Et le plus ironique de toute cette affaire, c'est donc qu'en feignant, il a fait une feinte hypocrite, théâtrale, de s'indigner du soi-disant blasphème de Jésus, Caïphe pose ainsi lui-même un geste blasphématoire plutôt grave en profanant le sacerdoce du souverain sacrificateur d'une manière que les Saintes Écritures interdisent expressément. Donc l'indignation, il faut bien préciser, l'indignation artificielle de Caïphe ne reflète aucune préoccupation de sa part pour le saint nom de Dieu. Il doit donc jubiler en son for intérieur d'entendre Jésus dire quelque chose dont, évidemment, il peut maintenant l'accuser, et comment? Le geste vraiment exagéré qu'il pose en déchirant ses vêtements hypocritement doit à peine dissimuler sa joie d'être enfin parvenu à faire dire à Jésus un semblant de blasphème qui en serait un vrai, si Jésus n'était qu'un simple homme. Mais Jésus n'est pas simplement un homme, et ses affirmations ne sont donc pas du tout blasphématoires. Le Sanhédrin commet donc ici une grave erreur en ne tenant aucun compte des nombreux miracles que Jésus a accomplis, dont plusieurs en public, à Jérusalem même, et même sous le propre nez de tous ces gens-là. Rappelons-nous d'ailleurs une des premières fois où, quelques années plus tôt, en Galilée, Jésus s'est défendu ainsi devant les chefs religieux juifs qui ont voulu le faire mourir pour avoir déclaré que Dieu était son Père. Saint Jean chapitre 5, versets 31 à 36, où il est dit « Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, alors mon témoignage n'est pas vrai. Il y a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean-Baptiste, il était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Mais moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a vraiment envoyé. Saint Jean, chapitre 5, versets 31 à 36. Non seulement Jean-Baptiste a témoigné de ce que Jésus était vraiment le Messie, mais encore Dieu le Père a corroboré ce fait au moyen de nombreux miracles dont le Sanhédrin a entendu parler et qu'il a pu lui-même observer parfois. C'est d'ailleurs la résurrection de Lazare qui vraiment est à l'origine de ce complot définitif et désespéré pour tuer, pour assassiner Jésus. Jean chapitre 11 verset 46 à 53. Mais dans leur empressement, ils n'ont tenu aucun compte de toutes les preuves à l'appui de ces affirmations. Voyez-vous, en déchirant ses vêtements, le souverain sacrificateur s'exclame ici en disant « Il a blasphémé ». Qu'avons-nous donc encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son terrible blasphème. Saint Matthieu 26, verset 65. Il a donc désormais la preuve qui lui manquait, et à sa très grande joie, il n'a plus besoin d'aucun témoin pour corroborer les faits. En ce qui le concerne, Jésus a blasphémé ouvertement devant tout le conseil. Tous en sont maintenant témoins. C'est terrible. Ainsi, sa condamnation est maintenant assurée. Et sans plus tarder, évidemment, le souverain sacrificateur demande donc aux membres du conseil de rendre leur verdict. Dites ce que vous pensez de tout cela. Que vous en semble ? Verset 65. Et à cela, ils répondent, très respectueusement, bien entendu. Oh, cet homme mérite la mort. Verset 66. Se faisant ainsi, le conseil qui est rendu un verdict sommaire, car tous les condamnés, on peut dire tous l'ont condamné comme méritant la mort. Saint Marc chapitre 14, verset 64. C'est un verdict qu'il a d'ailleurs prévu de rendre bien avant d'entendre la cause de Jésus. Personne n'est autorisé à parler en sa faveur. Personne ne fait aucune mise en garde au cours du procès. Personne n'implore la clémence, pas du tout. Personne ne tient compte des preuves qui corroborent ces affirmations-là. Le tribunal irrégulier, il faut bien le dire, du souverain sacrificateur déclare tout simplement que Jésus est coupable. comme les conspirateurs l'ont prévu et ont convenu, et cela bien avant que les poursuites contre Jésus soient maintenant entamées. Ayant enfin atteint leur visée conspiratrice de longue date, eh bien les membres du Sanhédrin donnent maintenant libre cours à leur haine satanique. Et là-dessus, ils commencent à lui cracher au visage et on lui donne des coups de poing et des soufflets, des gifles, en disant « Christ, prophétise maintenant et dis-nous qui t'a frappé ?» C'est Matthieu 26, versets 67 et 68. Car selon saint Luc, ils lui ont bandé les yeux avant de le frapper de partout et de lui ordonner de prophétiser en ayant les yeux bandés, en leur disant « Qui l'a frappé ?» Et l'auteur ajoute encore « Et il proférerait contre lui beaucoup d'autres injures. » Saint Luc chapitre 22, verset 65. Le plus ironique de tout cela, c'est qu'ils accusent Jésus de blasphème, alors que ce sont eux qui en sont vraiment coupables. Notons avec quelle grâce remarquable, paisible et majestueuse Jésus-Christ essuie toutes leurs injures. Il demeure fidèle à lui-même, lui qui injurié ne rend point d'injure, maltraité, ne fait point de menace, mais s'en remet à celui qui juge justement. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 23. Sous peu, il va porter les péchés d'autrui, de nous tous. Et entre-temps, il subit patiemment leur outrage haineux et colérique et faucheton. La prophétie d'Ésaïe a écrit au moins cela 700 années plus tôt donc, qui ont été décrits parfaitement. Ainsi, la situation a été décrite 700 ans avant, où il est dit dans Ésaïe 53, verset 3, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. » Ésaïe 53, verset 3. Nous allons terminer notre étude d'aujourd'hui. C'est ainsi, chers amis, que Ésaïe a prophétisé sur l'apathie coupable que le monde entier allait témoigner à l'égard de Jésus-Christ. Or, comme prédit, personne ne se porte ici à défendre Jésus. Personne ne parle en sa faveur. Il est abandonné à lui-même et doit supporter seul son affliction. Voilà donc comment Jésus s'est fait injustement condamner à mort. Mais s'il est vrai que son procès devant le Sanhédrin s'est déroulé exactement comme Caïphe l'avait prévu avec perfidie, il est tout aussi vrai qu'il s'est déroulé conformément et absolument au plan de Yahvé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen. Chers amis, j'aimerais vous transmettre, avant la prière, quelques pensées pour votre encouragement personnel, mais aussi pour votre édification personnelle. Voici donc ce que j'aimerais vous transmettre. Il y a des cœurs insensés et infidèles et profondément enfoncés dans les choses de la terre. Le malheur, ils sentiront douloureusement à la fin combien était vil, combien n'était rien ce qu'ils ont aimé. Mais les saints de Dieu, tous les fidèles amis de Jésus-Christ, ont méprisé ce qui flatte la chair et ce qui brille dans le temps. Toute leur espérance, tout leur désir aspirait au bien éternel. Tout leur cœur s'élevait vers les biens invisibles et impérissables, de peur que l'amour des choses visibles ne les abaissât vers la terre. Ne perdez pas, mon frère, ma sœur, l'espérance d'avancer dans la vie spirituelle. Vous en avez encore le temps. Pourquoi remettez-vous toujours au lendemain l'accomplissement de vos résolutions? Levez-vous et commencez à l'instant et dites: voici le temps d'agir. Oui, voici le temps de combattre. Voici le temps de me corriger. Quand la vie nous est présente et amère, c'est alors le temps de méditer. Il faut passer par le fer et par l'eau avant d'entrer dans le lieu de rafraîchissement. Si vous ne vous faites violence, vous n'aurez pas la victoire. Vous n'aurez pas la victoire du tout. Tant que nous portons ce corps fragile, nous ne pouvons être sans péché, ni sans ennui et sans douleur. Il faut donc persévérer dans la patience et attendre la miséricorde de Dieu jusqu'à ce que l'iniquité passe et que ce qui est mortel en vous soit absorbé par la vie. Oh, quelle est grande la fragilité qui toujours incline l'homme au mal. Vous confessez aujourd'hui vos péchés et vous y retomberez le lendemain. Pourquoi? Parce que vous manquez de volonté et de discipline. Vous vous proposez d'être sur vos gardes et une heure après, vous agissez comme si vous ne vous étiez rien, comme si vous étiez rien proposé. Nous avons donc grand sujet de nous humilier et de nous jamais élever en nous-mêmes, étant si fragiles et si inconstants. Nous pouvons perdre en ce moment même, par notre négligence, ce que à peine avons-nous acquis par la grâce, avec un long travail. Que sera ce de nous à la fin du jour, si nous sommes si lâches dès le matin? Malheur à nous, si nous voulons goûter le repos comme si déjà nous étions en paix et en assurance, tandis qu'on ne découvre pas dans notre vie une seule trace de véritable sainteté. Amen. Et chers amis, prions maintenant. Prions. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il nous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés dans l'amour, nous puissions comprendre avec tous les saints de par le monde qu'il est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître ainsi l'amour de Jésus-Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que nous soyons remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église corps de Christ et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Et chers amis, rappelez-vous que Dieu vous aime. Oh oui. Et il est donc de mon devoir de vous aimer également. Et je vous dis sincèrement que je vous aime de tout mon cœur et je vous enlace maintenant et je vous dis, oui, je vous aime tous. Soyez donc bénis et au revoir. À demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette série. Au revoir.